Pourquoi est-il si important que notre vie reflète aussi fidèlement que possible l'humilité dont Jésus-Christ nous a laissé le parfait exemple? Cette humilité que l'apôtre Paul a pris le temps de décrire longuement au début du chapitre 2 de sa lettre aux Philippiens. Pourquoi est-il si important que notre vie reflète aussi fidèlement cette humilité? Pour plusieurs raisons, mais pour celle-ci surtout, nous dit l'apôtre Paul, Dieu attend de nous, qui confessons son Fils comme Sauveur et comme Seigneur, Dieu attend de nous que nous brillions au milieu d'une génération qu'il qualifie lui-même, ce sont ses mots, de perverse et corrompue. Je vous invite à reprendre le fil d'une étude commencée il y a quelques mois de cela, et à ouvrir vos Bibles dans cette lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Nous lirons les versets 12 à 18, épître de Paul aux Philippiens, donc, chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompu. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir parcouru ni travaillé en vain. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Nous arrêterons là notre lecture. De ce texte magnifique à bien des égards, nous extrairons ce matin deux impératifs qui inspireront notre réflexion et que je résumerai ainsi. Mettez en œuvre votre salut, mettez en œuvre votre salut et brillez comme des flambeaux, brillez comme des flambeaux. Mettez en œuvre votre salut d'abord. Je relis les versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais absent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Trois thèmes retiendront ici notre attention. Le ton adopté, le commandement laissé et le secours promis par Paul. Le ton adopté, pour commencer, verset 12, « Ainsi mes bien-aimés, qui avaient toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Deux choses sont à remarquer ici. Le titre d'abord, que Paul donne aux Philippiens, le compliment ensuite qu'il leur adresse. L'un et l'autre témoignent de son intention d'exhorter une fois encore ses amis macédoniens avec douceur. Le titre déjà, verset 12, « Mes bien-aimés ». Le mot est soigneusement choisi, il vient du verbe agapein, « aimer », et plus précisément dans le Nouveau Testament, « aimer comme Dieu aime ». D'où notre paraphrase, mes amis écrit Paul, que j'aime à la manière de Dieu et d'un amour qui ne peut venir que de lui. Quelle déclaration! Et je me dis, si pareille tendresse, directement inspirée du Seigneur, pouvait prévaloir aujourd'hui encore dans nos rapports mutuels. Mais il n'y a pas que le titre, il y a aussi le compliment, verset 12 toujours. « Vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Le moins que l'on puisse dire est que les Philippiens assurent aux yeux de Paul qu'ils pensent à eux et le voici comblé. Ils obéissaient quand il était des leurs. Ils obéissent avec peut-être plus de zèle encore maintenant qu'il est loin d'eux. À l'image de celle du Christ, leur soumission est exemplaire parce qu'à la fois entière et durable. Et la nôtre de soumission. Sommes-nous aussi soucieux d'être et de rester irréprochables lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, que lorsqu'un frère, une sœur, un ancien, le pasteur nous observe? Voilà pour le ton. Venons maintenant au commandement de Paul, le commandement laissé. Verset 12, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Pour bien comprendre la pensée de l'apôtre ici, il convient de nous arrêter un instant sur le sens du verbe qu'il utilise ici, « mettre en œuvre ». Le préfixe, explique un commentateur, ajoute au verbe simple « travailler » l'idée d'un achèvement. Ici, de caractère pratique. Il faut faire fructifier son salut. Le mettre en action. Le salut est accompli par Christ, mais l'Église doit le manifester par sa conduite. Ainsi, l'appel qui nous est adressé est clair. Il s'agit pour nous qui avons fait l'heureuse expérience du salut de nous efforcer par tous les moyens d'en faire apparaître en même temps que la portée, la beauté de notre salut. Le jour où il nous a sauvés, Christ nous a donné son esprit, lequel l'esprit, depuis, poursuit sans relâche un projet ambitieux, celui de faire de nous des hommes et des femmes entièrement renouvelés, anormalement bons et donc étonnamment beaux. Pourquoi ? Parce que porteur de ce que l'apôtre a déjà appelé le fruit de l'esprit, précisément, et dont nous savons qu'il allie parfaitement amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi, pour ne citer que ces quelques vertus évangéliques. Mais ce fruit est-il seulement visible dans nos vies? Pas sûr. Pas sûr. D'où l'injonction de Paul, travaillez, mettez-vous en peine s'il le faut, de telle sorte que soit bien mise en valeur l'étendue, autant que la beauté de l'œuvre salvatrice de Christ, dont vous avez été les heureux bénéficiaires. Il n'en va pas seulement de votre crédibilité, il en va aussi de la réputation du Seigneur. Cela dit, relevons la manière dont Paul attend de nous que nous fassions reluire notre salut, avec crainte et profond respect. Tous les exégètes ne s'accordent pas sur ce point, mais nous estimons avec les plus récents que c'est à nos rapports mutuels que Paul applique ici ces deux termes, d'où cette paraphrase que nous croyons pouvoir proposer, faites ressortir la beauté de votre salut en vous comportant les uns à l'égard des autres avec humilité et respect. Humilité et respect. Tout un programme. mettre notre salut, mes amis, en valeur, en peaufinant nos rapports mutuels. De telle sorte qu'ils se distinguent par la modestie, la générosité, l'estime, la déférence, dont ils seront devenus avec le temps, l'admirable expression. Voilà pour le commandement. Quelques mots maintenant sur le secours promis par Paul. Le secours promis, verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Pourquoi l'apôtre éprouve-t-il le besoin d'ajouter cette phrase? Pour une raison très simple, me semble-t-il. Parce qu'il sait nécessaire, à ce stade, de rassurer ses amis macédoniens. Et nous avec eux, bien sûr. Reproduire l'exemple de Christ dans nos rapports mutuels est un projet dont le moins qu'on puisse dire est qu'il nous dépasse. Nous poser durablement, je dis bien durablement, en serviteurs humbles et respectueux les uns des autres, nous est tout sauf naturel. Comment dès lors répondre à cette haute vocation ? Avec l'aide de Dieu. Dieu qui ne demande que cela, faire naître lui-même en nous la volonté et produire lui-même en nous la capacité d'être ce qu'il attend de nous, des hommes et des femmes au service les uns des autres. Ainsi, éclairés sur la volonté et le pouvoir divin, nous sommes sans excuse. Et je souligne le « sans excuse ». Nous sommes sans excuse si nous ne le laissons pas agir en nous, de telle sorte que, à notre tour, nous nous distinguions du reste des hommes par la qualité de nos rapports mutuels, marqués au coin de l'humilité et du respect. Humilité, respect. Mais voici venu le moment d'aborder le second impératif de Paul à l'intention des Philippiens. Briller comme des flambeaux. Briller comme des flambeaux. Versets 14 et 15. Faites tout, écrit-il, sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une société, d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Deux sujets retiendront ici notre attention. L'état du monde, d'une part, et la vocation des chrétiens, d'autre part, telle que les représente l'apôtre Paul. L'état du monde, d'abord. Comment l'apôtre qualifie-t-il la société au sein de laquelle il vit? Verset 15, de génération perverse et corrompue. Le moins qu'on puisse dire ici est qu'il n'est pas tendre avec elle. Les termes qu'il utilise pour la décrire désignent tous deux quelque chose de tordu. Mais Pierre, et surtout Jésus, avant lui, ont tenu le même langage. Un regard qui contraste donc singulièrement avec celui qu'elle, la société, porte généralement sur elle-même. Alors la question maintenant est de savoir si Paul serait moins sévère avec notre génération. C'est douteux. C'est douteux. Lorsqu'on voit comment nos législateurs, par exemple, en supprimant une à une les bornes morales que la révélation divine nous avait rendues chères, entraînent lentement, mais hélas sûrement, nos contemporains hors du droit chemin vers l'immoralité, je devrais dire la moralité. Non, Paul ne serait sans doute pas moins dur avec notre société, dont la décadence morale, rappelle étrangement et tristement celle du monde romain. Raison de plus pour intercéder vigoureusement en faveur de nos autorités, mes amis, afin qu'elles retrouvent bientôt un goût prononcé pour le bien, le bon et le beau. Mais il nous faut poursuivre et considérer maintenant la vocation des chrétiens selon Paul, leur vocation. Elle tient en un verbe, briller. Briller, seconde partie du verset 15, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Et l'enseignement de l'apôtre de rejoindre ici celui de Jésus, qui de ses fidèles déjà disait, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Glorieuse vocation et lourde, très lourde responsabilité. Éclairer nos contemporains en leur apportant la lumière divine. Comprenons-le bien, pour Paul, comme pour Jésus, ceux qui nous entourent sont dans les ténèbres. Quoi qu'ils en pensent et disent, ils ne voient rien et n'en finissent donc pas de s'égarer, de se perdre. Sont-ils sans espoir pour autant ? Non. Mais à condition que leur parvienne à temps l'éclairage de Dieu. Or, cette clarté salutaire, c'est à nous, chrétiens, que le Seigneur l'a confiée pour que nous la portions à notre génération. C'est ce qu'indique précisément le terme choisi par Paul pour nous décrire, littéralement, porteur de lumière. Porteur de lumière. Question, allons-nous répondre à cet appel et être autant de réverbères, belle image pour vous et moi, autant de réverbères plantés au cœur d'une cité plongée tout entière dans la nuit. Plaise à Dieu que tous nous ayons à cœur de nous montrer dignes individuellement et collectivement de la vocation qui nous a été adressée. Le monde est plein d'ombres, résume si bien ce court refrain souvenir de mon enfance. Brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Il y a quand même quelques anciens ici. Reste à découvrir comment et pourquoi faut-il, selon Paul, que nous brillions au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme la nôtre. Et d'abord, comment ? Réponse de l'apôtre, à la fois par notre comportement et par notre témoignage. Par notre comportement déjà. Verset 14, « Faites tout, écrit Paul, sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut. » C'est donc avant tout par un comportement irréprochable, pur, sans défaut devant Dieu, qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à briller au cœur de notre génération. Or, et ceci me paraît être le cœur même du message de Paul, il n'est pas de comportement irréprochable, pur et sans défaut devant Dieu, sans bonne entente. Sans bonne entente. D'où l'injonction faite par l'apôtre aux Philippiens à rejeter une bonne foi et en bloc, murmure, dit-il, et contestation. Un commandement qui, bien sûr, vaut plus que jamais pour nous aujourd'hui, nos chamailleries, bisbilles, prises de bec, disputes et autres querelles, c'est la signification du mot murmure. Autant que nos discutailleries, c'est l'autre sens du mot « contestation », ne sont pas simplement une offense faite à Dieu, mais également un écran privant celles et ceux qui nous côtoient de cette lumière dont nous avons été faits porteurs et qui seule leur permettra peut-être de réorienter justement leur vie. Qu'il soit un, priait déjà Jésus. Pourquoi ? Pour que le monde croie. Qu'il soit un, pour que le monde croie. Veillons par conséquent, mes amis, à ce que notre concorde, fruit de la présence de l'Esprit-Saint au milieu de nous et de son action en nous, notre concorde, soit et demeure pour le monde qui nous entoure comme un flambeau salutaire. Brillez donc par notre comportement, par notre unité. Mais pas seulement, par notre témoignage aussi, fin du verset 15 et début du verset 16, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, écoutez bien, en portant la parole de vie. Au geste donc, doit s'adjoindre le témoignage, et plus précisément, l'annonce persévérante, c'est ce qu'indique le temps du verbe, un présent ici, de l'Évangile en tant que seule parole capable de donner la vie, la vraie, celle qui se renouvelle dans l'intimité de Dieu et qui, nous le savons, ne finit pas. Amis qui m'écoutez encore, comment imaginer que nous puissions priver notre génération de cette source unique de salut ? C'est pourquoi je nous exhorte tous à aimer assez notre prochain pour surmonter les craintes qu'il nous inspire encore, afin de partager avec lui sans tarder la bonne nouvelle que nous avons reçue en dépôt. Je veux dire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Et qui, écrira bientôt l'apôtre, nous enseigne, je cite, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises du monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Et nous priverions notre voisin de cet évangile, au risque d'avoir à comparaître un jour pour non-assistance à personne en danger. Voilà pour le comment briller. Quelques mots maintenant sur le pourquoi. Pourquoi briller ? Que dit Paul dans notre texte du motif autre que l'amour du prochain ? Qui devrait pousser les Philippiens à briller comme des flambeaux dans le monde. Eh bien qu'il consiste en un double désir, celui de rassurer leur conducteur et celui de connaître eux-mêmes le bonheur. Rassurer leur conducteur d'abord. Seconde partie du verset 16, « Je pourrais alors être fier le jour de Christ ». De n'avoir pas couru et travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. La crainte de l'apôtre, s'apercevoir au jour de Christ qu'il a couru, qu'il s'est dépensé, qu'il s'est sacrifié même en vain. Pourquoi ? Parce que la foi de ses amis macédoniens n'a pas rayonné comme elle le devait. Parce que leurs dissensions, surtout, ont perduré jusqu'à la fin. Parce que la parole de vie, l'évangile de la grâce divine manifestée en Jésus-Christ, est restée comme enfermée dans leur cœur. D'où ces lignes destinées à les émouvoir. « Non, mes enfants, vous ne pouvez pas me faire ça. » Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tout donné jusqu'à ma liberté. Et peut-être aussi bientôt ma vie pour servir votre foi et faire d'elle comme un phare salutaire au cœur de la nuit du monde. Alors je vous en supplie, faites-moi plaisir, rendez-moi heureux, mettez en œuvre votre salut et brillez comme des flambeaux. Paul a-t-il été entendu ? Il semblerait que oui. Et ceux qui l'ont suivi, il en est ici qui, sans être jamais allé aussi loin que l'apôtre, ont quand même travaillé, peiné, certains se sont même usés. Pourquoi ? Pour servir votre foi, eux aussi. Ont-ils des raisons aujourd'hui de craindre d'avoir œuvré en vain ? Ont-ils des raisons aujourd'hui de craindre d'avoir œuvré en vain ? C'est à vous, mes amis, de les rassurer maintenant. Et comment ? En mettant en œuvre vous aussi votre salut. Et en veillant vous aussi à ce que la qualité de votre rapport l'un à l'autre, quel que soit cet autre, soit telle que notre génération en soit comme étonnée, et puis, nous l'espérons, illuminée. Mais il est un autre désir que Paul considère comme propre à persuader les Philippiens de briller, et c'est celui de connaître le bonheur. Verset 18, « Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Une dernière invitation que je propose de comprendre ainsi dans son contexte. « Mes enfants, pourquoi mettre en œuvre votre salut et briller ?» Je vais vous le dire, afin de partager pleinement la joie profonde et durable que j'éprouverai moi-même certainement en contemplant ému et reconnaissant le fruit abondant de mes sacrifices. Je veux dire, votre foi, une foi radieuse, rayonnante, éclatante. Mes amis, il est des joies uniques. Il est des joies uniques, comme celle de s'être donné sans compter pour servir la foi d'une assemblée comme la nôtre et de constater au crépuscule de sa vie que ses efforts, ses peines, ses sacrifices n'ont pas été vains. Que celles et ceux pour qui l'on s'est investi jusqu'à l'excès parfois vivent en bonne entente et brillent désormais comme des flambeaux dans la cité. Et que par conséquent, l'on n'a plus à redouter le jour de Christ, puisqu'ils sont maintenant tout prêts d'être irréprochables, purs et sans défaut. Et c'est ce bonheur que Paul voudrait nous voir partager avec ceux qui ne se sont pas épargnés pour servir, et j'aime le mot, pour servir en même temps que l'affermissement, l'affinement et l'embellissement de notre foi. Sachant que ne connaîtront jamais ce plaisir intense que ceux parmi nous qui auront répondu favorablement aux injonctions divinement inspirées de leur conducteur. Je conclus. Ce qui est attendu de nous, deux choses. D'abord, que nous mettions en œuvre notre salut. Autrement dit, que nous laissions l'Esprit de Dieu qui nous a été donné dans sa plénitude poursuivre et achever l'œuvre qu'il a commencée en nous et dont l'objectif est de faire de nous tous des hommes et des femmes à l'image de Christ. Et ensuite, que nous brillions dans le monde comme des flambeaux. Comment ? En manifestant comme jamais notre étonnante unité en Christ, sans oublier de passer la parole de vie, l'Évangile, à ceux dont nous croisons la route. Pourquoi ? Pour la joie de nos maîtres, pour notre propre bonheur, et j'ajoute, sans, je pense, trahir la pensée de l'apôtre Paul, sa gloire à lui, la gloire de Dieu.